Marché action et marché obligataire. Le retour fracassant du débat sur la probabilité d'une récession américaine est-il sérieux ou non? Et quel impact sur les actions et les obligations? Chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Nouvelle édition du Top Tap. Bienvenue au mois de mars. Bienvenue au mois de mars, le printemps est en vue et voilà que ressurgit. Ça fait longtemps, d'ailleurs, l'éternel débat sur la probabilité d'une récession aux États-Unis. Guerre commerciale, résultats décevants d'Amazon, quelques statistiques macroéconomiques américaines sur la consommation des ménages qui donnent des petits signaux d'alerte, licenciements massifs dans le secteur public par le Dodge d'Elon Musk, risque de contagion sur le secteur privé. Bon. Et voilà que, d'ailleurs c'est assez cyclique, tous les 4-5 mois, ressurgit ce débat sur la probabilité d'une récession américaine. Bien sûr, la guerre commerciale reste un des points d'ancrage de la relance de ce débat. Plusieurs parties. Tout d'abord, première partie, qu'est-ce qu'on fait dans cette vidéo? Première partie, ce retour fracassant, oui fracassant, du débat sur la probabilité d'une récession économique aux États-Unis. Alors moi, je n'y crois pas du tout, mais tout de même, si le marché y croit, si la probabilité augmente, c'est que cela peut accélérer le calendrier de reprise des baisses, de la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux américains, du taux d'intérêt de la Fed. Bon, pessimisme devient consensuel actuellement, majoritaire. C'est que les bottoms de marché se font dans le pessimisme et top dans l'optimisme. Première partie donc, pourquoi ce débat revient? Sur quoi ça s'appuie? Sur quoi est-ce qu'on construit? Sur quoi la presse financière construit ces articles qui parlent de retour de la récession économique aux États-Unis? Sur du vent, sur du sable, sur de la pierre? J'en parle, première partie. Seconde partie, mais on ne va pas attendre longtemps. Première semaine de mars. Mise à jour de toutes les statistiques américaines de l'emploi. Mise à jour des très respectés indices PMI de l'ISM. Et ça, c'est pas du vent. C'est du concret. Y a-t-il une dégradation réelle du marché du travail aux États-Unis? Ou cela est-ce purement imaginaire? Ou uniquement cantonné aux 100 000 licenciements, aux licenciements massifs que le Dodge d'Elon Musk et Donald Trump mettent en place dans les services de l'État. Donc, cette semaine, chaque chiffre de l'emploi va compter, en particulier le NFP vendredi, la mise à jour du taux de chômage, tous les indicateurs avancés de création d'emplois, les taux d'intérêt ont déjà commencé à réagir. Ils ont pris la direction du Sud. Avez-vous vu la remontada des obligations? Je vous ai toujours dit d'avoir des obligations en portefeuille. Ça s'est bien repris. J'en parle d'ailleurs dans cette vidéo. Troisième partie. Eh bien alors, il y a deux semaines, vous lisez ci et là que la Fed ne baissera plus ses taux cette année. Et ça y est, là, elle pourrait les rebaisser dès le printemps. Le vent souffle. La girouette. La haute finance fait la girouette. Il y a trois semaines, on nous parle d'une inflation résiliente, d'une croissance inflationniste, incroyable américaine. Et maintenant, retour de débat sur la probabilité d'une récession, risque de l'emploi. Et vous allez voir, reprise de la désinflation comme prévu par les indicateurs avancés. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que la Fed reprendra ses baisses de taux en septembre ou en décembre. Ma conviction, et je l'assumerai, est que la Fed reprendra la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux ce printemps. Alors attention, printemps, de mars à juin. Je mettrai bien un petit billet sur la décision de politique monétaire du mois de juin. Mai ou juin, pour reprendre la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux. Mai ou juin, mais pas septembre ni décembre. Quatrième partie, eh bien ça fait longtemps, je vais vous reparler des obligations qui ont bien pumpé depuis deux semaines. Qu'en est-il? Quelle est la lecture technique des taux d'intérêt, des taux obligataires américains, du prix des obligations? J'espère que vous en avez toujours gardé en portefeuille, ça amortit les chocs. Il y a du potentiel à horizon 1 an, 2 ans. Ça verse un coupon chaque année. Il n'y a pas que le prix. Cinquième partie, S&P 500. Cette fameuse tendance haussière de fond que je vous décris depuis 2022 est-elle encore en place? Est-ce que j'assume toujours un objectif des 6500 points pour cette année? Cette année. Pas aujourd'hui, pas cette semaine, cette année. Est-ce encore crédible? Voilà tous les thèmes que nous allons aborder dans cette nouvelle édition du Top Gun. Mais je vais surtout donc vous faire un gros focus sur ce sujet de la récession américaine. Où en fait, je trouve qu'à partir de pas grand-chose, on s'inquiète. Mais tout de même, ça va nous donner l'occasion de repasser en revue les vrais baromètres et les meilleurs modèles avancés pour voir si l'économie américaine est en récession. Et in fine, si cette probabilité augmente, cela va rapprocher de nous le calendrier de reprise de la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux, ce qui peut aussi donner de l'air au marché, et en particulier soutenir la classe d'actifs des obligations, mais in fine, amortir aussi et le marché action. Le retour fracassant de la probabilité d'une récession américaine est-il sérieux? C'est parti. Allez, c'est parti les amis, je me suis changé, je suis juste ici et nous allons parler donc du débat sur la probabilité d'une récession aux États-Unis après les chiffres, certains chiffres de l'emploi la semaine dernière, après l'inflation US-PCE de vendredi, après toute l'actualité globale macro et donc cette semaine, beaucoup de statistiques et notamment toutes les statistiques américaines de l'emploi. Et donc c'est parti, abracadabra, je me réduis. Et c'est parti. Alors, le débat sur la probabilité d'une récession aux États-Unis est-il sérieux? S'appuie-t-il sur quelque chose de tangible? Enfin, le débat, le retour du débat. Car ce fut un long débat, en fait, qui a commencé en 2022. Rappelez-vous d'ailleurs le nombre de vidéos que j'ai fait sur le sujet. Avec la remontée des taux d'intérêt, et puis finalement, l'économie américaine a fait preuve d'une résilience étonnante et n'est jamais tombée en récession. Peut-être, excusez-moi. Excusez-moi. Les aléas du direct, chers amis. Bon, alors, oui. Alors, l'Europe, la zone euro, elle est tombée effectivement en récession technique, mais pas les États-Unis. Gardez une croissance extrêmement forte. Alors, sans transition, pourquoi le retour tonitruant, le retour fracassant de la probabilité du débat autour de la probabilité d'une récession aux États-Unis. C'est vrai, il y a un certain nombre de raisons en fait. La raison principale, c'est que le marché action américain est cher. Dès lors qu'un marché atteint une valorisation excessive, le moindre doute sur la croissance fait que les capitaux peuvent aller des actions vers les obligations. En tout cas, et un stress. D'ailleurs, même que les capitaux sont allés sur les actions européennes depuis un mois et demi. C'est un scénario que je vous ai donné en décembre. La remontada du CAC 40, par exemple, qui est d'ailleurs, c'est plus le moment, hein, il a son record historique. Bon, mais bref. Donc, on voit déjà, le S&P 500, lui, il est bloqué depuis plusieurs semaines sous la même résistance. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Et oui, les amis, il en faut peu pour effrayer les marchés financiers. Le débat sur la probabilité d'une récession semblait définitivement terminé aux États-Unis, avec notamment ce qui est la statistique ultime. La statistique ultime. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un certain nombre de chiffres macroéconomiques pour argumenter sur ce débat de la probabilité d'une récession aux États-Unis. Et donc, on peut raconter tout ce qu'on veut, mettre en avant tel chiffre, le sortir de son contexte, il y en a un qui ment pas. Il y en a un qui ment pas. En récession, lorsque les entreprises envisagent de moins vendre, lorsqu'elles font plus de marge, quand vraiment elles sont dans le dur, qu'est-ce qu'elles font? Elles. Allez, quelqu'un le sait. J'ai mis un indice sous les yeux. Eh oui, elle licencie. Alors, le taux de chômage est tombé à 4%. Il ne cesse de baisser. Va-t-il rebondir fortement cette semaine? En tout cas,
le débat sur la probabilité d'une récession semblait écarté. Et voilà que depuis 2 semaines, il revient en force, notamment depuis la semaine dernière. Il n'y a pas que la guerre commerciale. Ne me dites pas, c'est la guerre commerciale. Non, non, il y a... Bien sûr que cela pèse sur la psychologie et les anticipations. Mais il y a eu notamment les résultats décevants d'Amazon. Amazon, c'est le baromètre microéconomique pour les entreprises, qui représente la consommation des ménages. Et vous n'êtes pas sans savoir que la consommation des ménages représente... Oui, 70% du PIB des États-Unis. Vous y êtes. Et donc, effectivement, Amazon a souffert et est revenu d'ailleurs à proximité de sa moyenne mobile à 200 jours. Il y a aussi eu des statistiques décevantes sur une base mensuelle. En particulier, les ventes au détail aux États-Unis. Ou encore, vous savez qu'il y a des indicateurs avancés très respectés par le marché. Les fameux indices PMI. Attention, vous avez les PMI édités par Standard & Poor's et Markits, et vous avez les PMI édités par l'ISM. Pour l'économie américaine, aux États-Unis, c'est l'ISM qui compte. Mais il s'avère que le PMI édité par Standard & Poor's, dans le secteur des services, est passé en territoire de contraction, et même sous le niveau de la zone euro. Ce n'est pas encore confirmé par le PMI de l'ISM, qui, lui, est mis à jour cette semaine. Et pourquoi cette semaine, elle est fantastique? Elle est fantastique d'un point de vue macro. Beaucoup d'informations arrivent. Donc, effectivement, les ventes au détail en janvier ont eu un taux de croissance mensuel négatif. C'est uniquement le mensuel, hein, parce qu'en rythme annuel. Mais donc, cela est venu s'ajouter à Amazon. Et puis donc, vous avez le PMI des services des États-Unis qui est passé sous celui de la zone euro, et pire, sous le niveau des 50, qui est le niveau de contraction économique. Attention, c'est uniquement un mois. Il s'agit uniquement du PMI des services. Alors, les services, c'est 80% du PIB des États-Unis. Et ce n'est pas le PMI le plus surveillé aux États-Unis, car ce n'est pas celui de l'ISM. Mais en fait, le moindre chiffre macro qui crée des doutes sur la croissance crée des doutes pour le marché action, parce que le marché action américain est super cher. Que ce soit selon le cap ratio ou price earning de Shiller, ou le price to sales, le prix du marché par rapport au chiffre d'affaires des entreprises, le prix du marché par rapport aux bénéfices des 10 dernières années retraités de l'inflation, nous sommes revenus sur les niveaux de valorisation de fin 2021, ce qui fut à l'époque. Le début, donc, juste avant le bear market de 2022. D'où cette inquiétude. Alors, bien sûr, ce n'est pas suffisant. C'est loin d'être suffisant. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ce ne sont que quelques baromètres, puis comme ça, de manière individuelle. Il n'y a pas encore d'alerte structurelle. Et nous allons en savoir plus cette semaine. Alors, comment raisonner? Le stress, il est venu en grande partie aussi du fait que Elon Musk, à la tête du Dodge, se sépare de dizaines de milliers d'employés de l'État aux États-Unis, et licenciements sont massifs, et il y a une crainte donc que cela agisse sur la confiance générale, pire que cela agisse sur le secteur privé. Bien sûr, c'est un raisonnement un peu prématuré, et il faut avoir un raisonnement plus construit. Envisager que l'économie américaine soit en récession ou non, c'est s'intéresser à des baromètres. Je vous ai mis dans le tableau ici à droite, je rassemble les baromètres à notre disposition au sein de 4 grandes catégories. Vous avez ce qu'on appelle les hard data, ce qui est tangible, ce n'est pas du vent, ce ne sont pas des sondages, ce ne sont pas des indicateurs avancés, c'est ce qu'on peut mesurer statistiquement. Production industrielle, les ventes dans l'immobilier, les données de l'emploi, les ventes au détail, le nombre de faillites d'entreprises. Je vous en ai mis ici un certain nombre. Vous avez les soft data, qui sont les indicateurs avancés. C'est là d'ailleurs où vous retrouvez le fameux PMI. Il faut bien distinguer le PMI de Markits et le PMI édité par l'ISM, sachant qu'aux États-Unis, c'est surtout le PIB, le PMI édité par l'ISM qui est respecté. Vous avez ensuite des modèles de probabilité qui combinent plusieurs indicateurs macro et des données transversales.
Alors, au stade actuel, il n'y a pas d'alerte de récession, mais comme c'est vrai que le marché ne cherche qu'à se projeter, la moindre petite alerte crée des inquiétudes. Mais donc, si vous prenez les hard data, eh bien typiquement dans les hard data, vous avez le taux de chômage US qui au contraire a reculé ces derniers mois. Alors cette semaine, il est mis à jour, va-t-il rebondir? Nous verrons bien. Si vous vous tournez du côté des indicateurs avancés, je vous montre cette fois-ci le PMI des services de l'ISM. Et lui, il est toujours au-dessus de 50. Certes, il se replie, mais tant qu'il est au-dessus de 50, les services aux États-Unis ne sont pas en contraction. Les services, c'est 80% du PIB aux États-Unis. Et vous avez ensuite un certain nombre de modèles combinatoires. Nous allons regarder ici les 4. Et vous allez voir donc, aucun d'entre eux ne se trouve pour le moment. Alors, ils sont bien sûr, ils laguent, ils sont en retard. Et vous prenez par exemple le modèle du State Coincident Indexes de la Réserve fédérale de Philadelphie. Au total, on parle de récession lorsque vous avez plus de 27 États en contraction. On a à peu près là une douzaine. Donc, nous n'y sommes pas. Vous pouvez aussi vous tourner vers la règle de Sam, qui est toujours sous les 0,50. Alors ça, c'est basé sur le taux de chômage en grande partie. Hein. La moyenne mobile à 3 mois du taux de chômage. Lorsqu'elle est au-dessus de 0,50, on s'inquiète. Donc, il ne faut pas que le taux de chômage remonte. Le modèle de probabilité de la Réserve fédérale de Saint-Louis, qui lui nous donne une probable probabilité de 0,14, alors il est assez en retard. Et encore le modèle du Conference Board, alors qui lui en fait donnait une récession en 2023, mais finalement qui n'a pas eu lieu. Et donc cet indicateur avancé a tendance à remonter. Donc rendant moins probable, en fait, à moins qu'il y ait du lag, mais il y a eu beaucoup d'alertes l'année dernière et ça ne s'est pas traduit par une récession. Mais donc au final, ce sont les hard data qui comptent le plus. Et parmi ces hard data, celles qui ont le plus d'impact sur ce débat autour de la probabilité d'une récession, ce sont les chiffres du chômage. Je vous ai rassemblé ici toutes les statistiques aux États-Unis qui vont être publiées cette semaine. Donc cette semaine, vous avez la publication des indices PMI de l'ISM dans le secteur manufacturier et le secteur des services, et vous avez la mise à jour de toutes ces statistiques juste au-dessus de l'emploi aux États-Unis et qui vont agir et qui vont aller donner du grain à moudre ou pas, peut-être, autour de ce débat sur la probabilité d'une récession. Les enjeux de la semaine, le principal enjeu, c'est bien sûr le taux de chômage. Le principal enjeu, c'est bien sûr le taux de chômage aux États-Unis. Va-t-il rebondir, sachant que la Fed, je vous rappelle que la Réserve fédérale des États-Unis a fixé un seuil d'alerte à 4,3% de la population active. Ensuite, il y a eu la semaine dernière une grosse alerte, un net rebond des inscriptions initiales au chômage. Alors ça ne se verra pas dans ce rapport NFP, mais à suivre. Les inscriptions continuent, elles restent assez élevées. La tendance des créations d'emplois est négative depuis des mois et est presque revenue au niveau de la crise sanitaire. Donc cette semaine, le taux de chômage, les créations d'emplois aux États-Unis et bien sûr les NFP, donc tant qu'ils sont au-dessus de 100 000, on considère qu'ils sont suffisants pour absorber les nouvelles arrivées dans la population active aux États-Unis, ce sont vraiment les temps forts à surveiller cette semaine pour savoir ou non si vraiment il y a une alerte de récession aux États-Unis. Et le taux de chômage sera donc important et tous ces chiffres sont publiés en fin de semaine. Alors, au final, il y a à peine 2 semaines, on nous parle d'une croissance inflationniste, d'une économie de plein emploi et de pas de baisse de taux avant décembre. Et puis, ça se déplace à septembre. Et puis, avec les récentes datas, ça s'est déplacé à juin. Et peut-être, pourquoi pas bientôt en mai ou demain. Je plaisante pour demain. Bon, au final, c'est ça qui intéresse le marché. Vous savez, le marché, le S&P 500 n'ira pas à 6500 points. Moi, c'est ma cible, hein. D'ici décembre, je n'ai pas dit cette semaine, d'ici décembre, 6500 points, C'est ma target sur le S&P 500. Le S&P 500 ira à 6500 points. Si la Fed réengage pas trop tard la baisse du taux d'intérêt de ses fonds fédéraux, ça se joue comme d'habitude sur l'emploi et l'inflation. D'ailleurs, elle donne toutes les clés. Pour baisser les taux en lien avec l'inflation, il faut que le PCE core repasse sous 2,5. Et pour baisser les taux en lien avec l'emploi, il faut une hausse du taux de chômage au-dessus de 4,3% de la population active. En tout cas, au stade actuel, quand j'enregistre cette vidéo, le marché estime désormais à 52% de probabilité que la Fed baisse ses taux lors de la décision de politique monétaire du 18 juin prochain. Ceci est donc à suivre. Retour du débat sur la probabilité d'une récession. Beau comportement en bourse des obligations depuis quelques semaines. Analyse technique des taux d'intérêt et des obligations. On attaque le point sur les taux obligataires et bien sûr par corrélation inversée le prix des obligations. Alors commençons par le taux obligataire américain à 2 ans. Je voulais d'abord partager avec vous la représentation graphique en données hebdomadaires. On le voit en fait que petit à petit un renversement baissier se met en place. Alors pour l'instant c'est une phase de transition latérale. Et c'est intéressant de noter que le taux obligataire à 2 ans se maintient ici sous le cumo. Il y a eu un rejet récemment avec l'augmentation de la probabilité d'une récession, la reprise future de la désinflation. Et moi, j'envisage toujours que d'ici la fin d'année, le taux obligataire à 2 ans US, qui représente le mieux les anticipations politiques monétaires du taux d'intérêt de la Fed, revienne dans cette zone-là. Donc, en données journalières, eh bien, le marché se maintient sous la moyenne mobile à 200 jours. Et cette divergence a agi et reste donc dans une phase de repli tant que l'on se maintient sous la moyenne mobile à 200 jours. Le taux obligataire américain à 10 ans aussi a rejeté après s'être approché en janvier du seuil d'alerte macroéconomique. Ce qu'il faut savoir, c'est que une grande partie des entreprises américaines, notamment les plus petites et moyennes entreprises, ne peuvent tolérer un taux obligataire à 10 ans qui dépasse ce seuil-là. Alors ça, c'est le baromètre aussi des anticipations d'inflation, de récession, mais aussi de la Fed. Alors, nous sommes toujours ici potentiellement en fin d'une grande séquence haussière en 5 vagues, qui avait commencé ici avec la crise sanitaire. Nous sommes dans un long renversement, en fait plutôt ici une phase de trading range, et ce qu'il faut surveiller, en fait, c'est cette trend line et la moyenne mobile à 200 jours, et le taux obligataire à 10 ans repasserait dans une phase baissière court terme s'il devait casser la ligne de tendance et la moyenne mobile à 200 jours. Il n'est pas encore fait. Donc ça suit. Alors, bien sûr, gardez à l'esprit qu'il y a une corrélation inversée entre les taux d'intérêt et le prix des obligations. Les obligations, il faut toujours en avoir un en portefeuille. Nous sommes depuis des mois sur une zone basse de long terme. Je le répète, il faut avoir des obligations en portefeuille. Nous sommes depuis des mois sur une zone basse de long terme. Et à horizon 1 an, 2 ans, je ne serais pas surpris que les obligations remontent au niveau de ce prix-là. Et je vais vous montrer l'obligation américaine aussi à 10 ans pour ce qui est ici du contrat futur. Nous sommes aussi sur une zone basse de très long terme. Et le marché en fait est en reprise depuis 2023 et propose ici une sorte de structure en range. Et je ne serais pas surpris qu'on revienne chercher ici le haut du range. En tout cas, donc il faut toujours avoir des obligations en portefeuille. Alors, un mot rapide sur le S&P 500. Pour lequel je vous propose donc un suivi depuis plusieurs mois. Alors, est-ce que la tendance haussière de fond est toujours intacte? Ça, c'est la question majeure, naturellement. Première chose que je souhaite vous souligner, c'est que selon l'Association américaine des investisseurs particuliers, nous arrivons à un niveau de paroxysme des ventes. Le pourcentage de vendeurs a atteint son plus haut niveau depuis la crise financière et le double de la moyenne. Et il faut interpréter ces chiffres selon l'analyse contrarienne des marchés financiers. Alors, est-ce que le paroxysme des ventes est atteint? Alors, en données mensuelles, moi, vous savez que j'estime que le haut de cycle sera fait lorsque nous aurons une belle divergence baissière mensuelle. Alors ici, s'agit-il d'une grosse divergence baissière mensuelle ou quelque chose qui approche davantage ici ce que nous avons eu ici en 2013? Je pense que nous sommes davantage dans cette zone-là. Nous n'avons pas encore une grande divergence baissière mensuelle de long terme. Mais effectivement, ici, un marché qui faiblit un petit peu, je vais surveiller aussi le MACD en données mensuelles. Il ne faudrait absolument pas avoir un croisement excitatif de MACD. Pour le moment, il n'y a pas d'alerte de long terme. Alors, en données hebdomadaires, moi, je considère toujours que ma cible d'ici la fin d'année se situe ici, à 6500 points. Ça, c'est ma cible donc, pour la fin de l'année, hein, pas pour cette semaine, d'ici le mois de décembre prochain. En données hebdomadaires, nous sommes toujours soutenus par les enseignements du système Ishimoku. Et là, il est possible que le marché ait trouvé un support sur les 5770-5800 points. Si le niveau de la Kijun, en tout cas, tant qu'on se maintient au-dessus de la Kijun et du Kumo ici en données hebdomadaires, la tendance haussière de fond reste intacte. En données journalières, donc, moi je suis toujours dans mon décompte de vague 5. 1, 2, 3, nous sommes toujours dans la sous-vague 4, qui peut prendre la forme soit d'un flat ou éventuellement encore d'un zigzag. Moi je ne serais pas surpris en fait qu'on arrive à faire un bottom de vague 4 dans cette zone-là. En tout cas, je reste aussi court terme. Tant qu'on se maintient au-dessus des 5750 points, tant qu'on se maintient au-dessus de ce gap, tant qu'on se maintient au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Voilà, chers amis, eh bien, merci à toutes et à tous de votre attention. Si ça vous a plu, merci à ceux qui mettent un petit like et je vous souhaite une excellente semaine.